France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Bonjour, je m'appelle Amandine Beyer, je suis née en novembre 1974 à Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, en Provence, et je suis violoniste.
Alors si on vous ramène à vous, petite fille, et qu'on redescend sur la terre d'Aix-en-Provence, il y a ce premier professeur qui était donc le professeur de piano de votre sœur,
oui,
qui vous fait rentrer dans la musique avec votre corps via cette méthode d'Alcroze, oui, etc., Amandine Beyer. Et puis il y a ensuite, j'imagine, un premier professeur de flûte à bec, et puis arrive ensuite un professeur,
oui,
de violon.
Ruiz, et ensuite Madame Aurélia Spadaro, oui. Oui, et ça, c'est vraiment... Oui, ben, ça fait partie de ma mythologie. Voilà, c'est les gens... Mais c'est pas une mythologie, mais de mon univers, comme chacun peut avoir...
Qu'est-ce qu'elle vous a appris, Aurélia Spadaro? Élève de Zino Francescatti.
Oui, alors, il faut dire que je pense que Zino n'a jamais donné un cours. Vraiment, c'était sa mère, parce que les gens venaient pour avoir des cours. Et puis, Madame Francescatti, là, disait que Zino devait travailler. Donc, c'est elle qui s'occupait des... Mais je pense qu'elle, c'était la prof de Zino. Donc, voilà, donc tout allait bien. Et ma prof, eh ben, elle m'a, je pense, à peu près tout appris. L'envie de jouer, l'importance d'être présente, d'être franc, d'être, oui, de chercher quelque chose. Elle cherchait beaucoup. Techniquement, musicalement, voilà, c'est quelqu'un qui, bon, c'est Aix-en-Provence, c'est pas une ville énorme, et le conservatoire, c'est même pas, c'est une école de musique. Donc, voilà. Et aussi, c'est quelqu'un qui joue extrêmement bien. Très, 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 très bien. Il y a un document de Lina, d'ailleurs, sur elle, où elle raconte son enfance. Et j'adore ce moment parce que, donc, elle venait du Piémont et son père était maçon. Et en fait, ils n'avaient aucun moyen, mais vraiment rien. Et je ne sais pas comment elle a eu cette idée de... Elle a voulu jouer du violon et son père lui a pris une planche et a fait la forme du violon et un bout de bois et il faisait semblant, il y apprenait lui à elle et il passait un bout de bois sur un autre bout de bois. Et pour eux, c'était faire de la musique. Et il y a 2 ans, j'ai visité la maison natale de Pau Casals qui est devenue un musée à Vendrell, en Catalogne, et au sud de Barcelone. Et quand on rentre, c'est impressionnant. Dans la première vitrine, il y a une sorte de grande courgette. Et là-dessus, Pau Casals a appris à jouer du violoncelle aussi, parce qu'il était tout petit, ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent, et ils avaient entendu je ne sais pas quoi, et son père a évidé une grande courgette et a mis 2 cordes. Je pense que j'aimais le fait qu'elle soit très simple et pleine d'énergie.
Et vous, votre premier violon, c'était un vrai violon?
Oui. Malheureusement, c'était pas une calebasse. Et oui, c'était un vrai violon. Et j'étais assez soigneuse, je pense. Et assez paresseuse aussi. Donc, je lisais beaucoup. Je lis toujours beaucoup, mais à l'époque, c'était pratiquement... Oui, ça m'occupait. Et donc, j'avais le livre sur le pupitre à côté de la partition. Et le truc, c'était... Ma mère qui me disait, mais Amandine, tu vas pas t'y remettre. Oui, mais je finis mon chapitre. Et c'était toujours la lutte entre le chapitre et... heureusement, j'ai eu des très bons profs. Donc, j'ai eu Aurélia, j'ai eu Corinne, qui était une grande... Aurélia avait un système génial qui faisait que ses grands élèves s'occupaient aussi des plus petits. Donc, je faisais aussi des cours avec Corinne Aimé. Et puis, j'ai eu des cours avec Jean Termer-Guerian, qui était un professeur à Marseille. Extraordinaire, vraiment. Donc, ça, c'était aussi en parallèle. Ma mère a payé beaucoup, beaucoup de leçons pour moi. Parce que je ne sais pas pourquoi exactement, parce que je ne pense pas que ça... Le violon, ça marchait bien, mais moi, je ne sais pas si je montrais une telle envie. En tout cas, j'étais contente de jouer. Je ne sais pas si j'étais très contente de travailler. Mais je pense que ma maman l'a fait juste pour la beauté du geste. Pour que ça, quelque chose marche.
Donc votre mère, elle a investi, elle vous a suivi dans cet amour-là pour la musique, comme elle l'avait fait pour votre sœur. Votre oui. sœur, elle est très vite devenue pianiste professionnelle, enseignante, oui. accompagnatrice, oui. etc. Oui. Et donc vous, quand vous commencez à aller à Marseille, vous êtes à l'adolescence
12, 13. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, c'est étrange la vie aussi, ma prof avait rien de traditionnel ou de traditionaliste ou de... n'avait rien de français, en fait. Ma prof, elle venait vraiment de son Piémont et elle était restée 100% italienne, haute en couleur dans tous les sens du mot, bien et assez folklorique aussi des fois. Et bizarrement, quand même, le but de tout ça, c'était qu'un jour, je rentre au Conservatoire de Paris. Et ça, j'ai jamais compris, en fait, pourquoi ça devait être comme ça. Parce que, en fait, ça, j'en ai... Maintenant, ça va mieux. Mais j'en ai beaucoup souffert, en fait. Ça n'a pas été... Parce que finalement, au bout de 3 tentatives, j'y suis rentrée. Et ça a été de loin la période la plus triste de mon existence. Et alors, après, on se dit, mais vraiment, mais pourquoi? Parce que ma mère n'avait aucune ambition pour ça. Parce que je pense qu'elle savait pas trop. Et ma prof, je pense qu'elle avait non plus pas trop d'ambition pour ça. Donc, c'est une sorte de chemin obligé, mais qu'on s'oblige, mais on sait pas pourquoi. Et donc, on m'a obligée. On s'est toutes obligées. Parce que ma mère, finalement, était malheureuse. Moi, j'étais très malheureuse. Ma prof était pas contente. Donc, c'est vraiment un truc bizarre. Bon, voilà, c'est pas important, mais.
C'est arrivé à Paris, elle se fait quand vous avez quel âge alors ?
Quand j'ai 15 ans.
À 15 ans, Amandine Beyer, vous partez avec votre mère ?
On me déracine. Ben non, toute seule. Ouais, dur.
Où est-ce que vous habitez ?
Au foyer de jeunes filles de la rue de Tocqueville. Ouais, un peu difficile pour 2 ans. Mais c'est difficile, c'est pas parce que le foyer était pas bien ou c'est pas tout, mais c'est juste parce que... Voilà, vous venez d'Aix-en-Provence, vous êtes une jeune fille. Finalement, j'étais pas timide de caractère, mais quand même assez, pas non plus délurée ou tellement extravertie, je sais pas. Et ça m'a pas épanouie tout ça.
Vous êtes rentrée dans une classe de violon.
Oui, tout ça, c'est très mélangé. C'est tellement mélangé que j'ai aucune idée de la chronologie. J'ai quand même continué à faire de la flûte à bec jusqu'à à peu près 18-19 ans. Donc, clairement, pendant que j'étais au CNSM à Paris. Mais pendant que j'étais au CNSM à Paris, la première... Donc, je suis rentrée, j'avais 15 ans, presque 16. Et j'avais un peu d'avance à l'école, donc j'ai passé le baccalauréat, quand j'avais 16 ans, par correspondance, pendant que je faisais la première année de CNSM. Je pleurais tous les jours, pratiquement, dans ma chambre. Tellement c'était... J'adorais aller à l'école. J'aime apprendre, j'aime les profs, j'aimais être avec d'autres gens, je déteste être toute seule. Et donc, j'avais tous ces cahiers des cours par correspondance qui s'accumulaient. Je fais encore des cauchemars que j'ai pas le bac, tellement j'ai la sensation de pas avoir fait ce qu'il fallait cette année-là. Mais finalement, je l'ai eu. Et ensuite, ma mère, qui trouvait que c'était quand même pas génial de faire le CNSM, a décidé que j'allais faire musicologie pendant, en même temps, mais à Aix-en-Provence, à la fac d'Aix. Donc je faisais en même temps le CNSM, un peu des études de flûte à bec au conservatoire d'Aix. Je voyais encore ma prof d'Aix et je faisais la musicologie. Donc je pouvais pas trop aller aux cours, mais ma mère et ma sœur allaient pour moi. C'était un bins terrible de cours dans tous les sens. C'était intense.
Non, mais c'était c'est une affaire de femme quand même.
Ah oui, mais tout à fait. C'est en même temps j'adore parce que c'est tellement féministe aussi que chez nous c'était tellement. Mais je pense que ma maman nous a élevés comme des garçons, vraiment comme des hommes. Il fallait s'en sortir et voilà.
You got to give a little, take a little, and let your poor heart break a little. That's the story of, that's the glory of love. You've got to laugh a little, cry a little, before the clouds
France Musique, les grands entretiens d'Amandine Beyer.
That's the story of, that's the glory of love.
On a le sentiment à vous entendre raconter votre enfance, Amandine Beyer, que ce trio était quasiment, ce trio plus la musique et les livres, c'était quasiment autosuffisant d'une certaine façon.
Ah ben, c'est encore, il y a plein de gens qui disent, mais quand vous êtes toutes les trois, parce que ce trio se reforme très, ben c'est, voilà. Bon, j'ai un beau frère qui est heureusement charmant et qui s'adapte bien au trio, mais il y a des gens qui trouvent que c'est un... Oui, voilà, ça fait vraiment, ça fait ça. Mais voilà, tout le monde rigole dans ma vie, parce que j'appelle ma mère tous les jours, par exemple, et ça fait rire. Mais moi, je trouve ça super. Moi, j'adore appeler ma mère tous les jours. Je ne sens pas ça comme une corvée. Si je n'appelle pas, ben, j'appelle le lendemain. Ce n'est pas non plus... Enfin, je veux dire, si je n'appelle pas, elle ne va pas appeler la police maintenant. Avant, elle aurait fait... Mais j'aime bien lui raconter que je suis ici, je suis ça. Là, elle sait que je suis là. Et elle a entendu avant autre chose. Et ouais, c'est chouette.
Vous aimiez l'école, mais vous n'étiez pas forcément avec plein d'amis.
Ah non, mais alors pas du tout. Alors ça, c'est heureusement que ma vie a changé pour ça, parce que moi, j'ai adoré les autres, mais je me dis des fois que c'est un peu ma façon de voir, de tellement idéaliser ou je sais pas quoi. C'est comme si de temps en temps, peut-être j'avais un problème pour vivre la réalité, ou la réalité, on sait pas ce que c'est, mais en tout cas, une certaine réalité commune. Peut-être j'ai une tendance à m'évader ou je sais pas quoi. Et peut-être dans ma famille, c'était assez, ou c'est une tendance familiale. Donc c'était assez conforté ça, et assez autosuffisant aussi, donc il n'y en avait pas non plus... Enfin moi je suis jamais... Hier, je ne sais pas pourquoi, je rigolais toute seule. Je veux dire, mais je crois que j'ai dansé, et pourtant j'aime tellement la danse, mais j'ai dansé, enfin des genres surprise parties, je ne sais pas quoi, mais 4 fois dans ma vie quoi, ou une fête, ou voilà. La fête, je ne suis pas très fêtarde, parce qu'en fait moi j'ai une vie, c'est que la fête tout le temps. Moi, c'est la fête quand j'enseigne, c'est la fête quand je joue. Moi, après ma fête, moi, après les journées, le soir, je suis fatiguée, parce que surtout après, il y a des concerts et tout. Et moi, à minuit, des fois, je me couchais parce que j'en peux plus, quoi. J'ai tout donné déjà. Et bon, il y a des gens qui font la fête après la fête, mais bon, moi, en général, c'est bon, ça, j'ai donné. Et donc voilà. Donc, plein de fois, je rate les fêtes, mais dans ma tête, ça va.
Elle son fa qua corpo che lo va e con il cortista cielo da pura la fama scorto che altri voli tua gran beltà.
Alors, on a entendu votre enfance qui se passe à Aix-en-Provence avec cette sœur, votre maman, ce trio très fort. Les années parisiennes, donc vous avez 15 ans, vous quittez votre soleil pour vous retrouver dans un foyer toute seule à Paris. Quand oui. Vous arrivez à Paris, Amandine Beyer, c'est pour étudier le violon classique. Enfin, oui. Vous n'êtes pas encore du tout dans le violon baroque pour lequel on vous connaît aussi peut-être aujourd'hui davantage. Ce violon-là que vous étudiez au conservatoire, vous l'étudiez avec qui? Et est-ce que il y a quand même si jamais ce sont des années un peu sombres, des rencontres, des concerts, des expériences, un rapport à l'instrument, des œuvres marquantes?
C'était tellement noir, mais ça c'est l'adolescence aussi. Donc ça, tout est mélangé parce que finalement j'ai tellement fait je l'ai vraiment glissé tellement sous le tapis que je crois que ce sera peut-être la première fois que j'en parle vraiment. Et Dieu sait que pourtant j'ai rien vécu de traumatisant. Il y a des gens qui ont des parcours nettement plus difficiles. C'était simplement que moi je me sentais pas bien. Et j'avais deux profs qui étaient charmantes. J'ai pas su en profiter. Sûrement que le conservatoire aurait pu m'offrir plein de choses dont je suis passée à côté. Et donc j'étais dans la classe de Sylvie Gazo et avec une assistante qui s'appelle Geneviève Simoneau. Et c'est deux personnes qui s'occupent très bien de leurs étudiants. Il y avait une bonne ambiance dans la classe, ça j'ai toujours apprécié. Je sentais qu'elle voulait vraiment que les étudiants soient bien. Mais moi, ça marchait pas. Je sais pas, c'était pas le bon moment et c'était pas peut-être pas voilà. Et j'ai fait de mon mieux. J'étais super. J'ai jamais été une rebelle, donc je me suis accrochée. Mais ce qu'on me disait tout le temps, et ça revenait en boucle, et je m'en sortais pas, c'est que je jouais comme un bébé, et que c'était comme si j'étais pas là. Et je le savais parce que, mais ça arrive à plein de musiciens, et c'est une espèce de sorte de dédoublement. Vous jouez, mais en fait, vous voyez jouer. Ou alors, par exemple, vous faites votre métier, vous parlez, vous voyez parler, ou il y a une sorte de distance, c'est désespérant.
Et pourtant, vous avez dit qu'Aurélia Spadaro, elle vous avait appris la présence.
Ben oui, mais tout à coup, à tel point, j'étais tellement pas bien que je me revois vers 18 ans, aller voir Aurélia, elle dit, mais Aurélia, est-ce que vous pensez que j'ai perdu? Parce que j'avais une sorte de connexion très facile. Je me revois formulant cette question, peut-être 17 ans ou... À 17 ans, on sait rien, on sait, même à 45, je sais pas grand chose, mais encore moins, et j'étais tellement perdue, et j'ai dit, mais est-ce que vous pensez que je pourrais retrouver ça? D'ailleurs, j'étais tellement pas bien que j'ai pas entendu la réponse. Et maintenant, j'ai beaucoup plus de... tout ce que j'avais appris avait disparu. J'avais perdu la connexion avec la musique, et je l'ai récupéré qu'en arrivant à Bâle.
Avant ça, vous avez quand même aussi ces études de musicologie. Il y a quelque chose qui m'interpelle, Amandine Beyer, c'est que vous avez fait votre mémoire de musicologie sur Stockhausen. Alors, quand on connaît votre parcours, on ne vous imagine pas forcément vous passionner pour...
Mais
on
ne
connaît pas
gens.
Votre parcours, c'est voilà. ça Mais on ne vous imagine pas forcément gens. Vous passionner pour Stockhausen.
Alors, à la fac à Aix, il y avait des super profs. Donc, quand je pouvais y aller, mais au fur et à mesure, donc, comme le conservatoire à Paris, ça a duré 4 ans. La première année, je passais mon bac. Donc, après, deuxième année, j'étais en première année de DUG. Troisième année de conservatoire, deuxième année de DUG. À l'époque, Donc, troisième année, fin du conservatoire, j'étais en licence. Et j'avais eu deux profs super. Un qui s'appelle Olivier Culin, qui est plutôt un médiéviste. Et qui est allé à Aix à l'époque, et François de Carsin, qui était spécialiste du XXe siècle. Et grâce à les deux, c'était vraiment génial, fantastique. Donc ça me donnait un peu d'oxygène par rapport au conservatoire, où je ne me sentais pas si bien. Et tout à coup, je me dis, ah tiens, je vais faire une maîtrise, allez. Et entre-temps, donc, je rentre à la Scola, à Bâle. Et là, j'ai fait ma maîtrise pendant la première année de scolaire. Et ça, c'était dur. C'était toute la journée plein de cours en allemand à l'école. Et le soir, plein de textes en allemand de Stockhausen. Mais j'ai eu de la chance parce que il avait été prof à Bâle. Donc il avait créé le studio de musique électronique. Donc j'avais des mines d'informations que j'aurais jamais pu avoir à un autre endroit. À un moment, moi, il m'a dit, ouais, tu pourrais continuer une thèse. Je lui ai dit, mais si je passe encore 4 ans là, moi, je vais y perdre un morceau de moi-même, parce que ça commençait à partir chaque fois plus loin, quoi. Et donc, moi, je n'ai pas toujours les pieds sur terre, alors là, c'était... Non, moi, je ne suis pas une musicologue, mais je suis une assez bonne analyste, quand même, et j'aime bien plonger dans une partition, sous toute forme d'aspect. Donc, que ce soit vraiment simplement, vraiment musical, les sons, les rapports entre les sons, les intervalles, la manière d'où ça vient. Après, Stockhausen, ce qui est chouette, c'est que comme il avait un esprit très prolifique, non seulement comme compositeur, mais aussi comme penseur. Donc, il a beaucoup écrit. Donc, ça, c'est génial parce que, notamment, un livre qui s'appelle, alors je sais pas en français, wie die Zeit vergeht, Comment passe le temps. Et donc, c'est quelqu'un qui était passionné sur... et ça, c'est important pour toutes sortes de musiques. C'est un art du temps, donc comment passe le temps, comment le délimiter, comment faire ci et faire ça. Et... Bon, j'ai tout oublié maintenant, mais ça m'avait bien... Ça m'avait plu.
Je me demandais quel était votre rapport au sacré, s'il y avait dans votre famille une pratique religieuse ou pas, ou vous-même, est-ce que c'est quelque chose qui vous touche ou qui vous traverse? Parce qu'à vous entendre, on voit qu'il y a plein de profondeur, si je puis dire, dans votre manière de
vivre. Alors, c'était drôle parce qu'au moment où j'ai dit à mon prof que j'allais quand même pas passer encore 4 ans de ma vie ou plus, parce que je suis un peu lente, avec Stockhausen, il m'a proposé un sujet, et ça, je trouvais hyper intéressant, justement sur le sacré dans l'œuvre de Schoenberg et Stravinsky, qui était assez intéressant parce que un s'est converti au catholicisme à la fin de sa vie, et Schoenberg est retourné au judaïsme. Et ouais, je trouvais ça hyper intéressant et tout. Puis après, j'ai dit non, mais c'est pas pour moi. J'ai pas le bagage. Ça va pas le faire. Alors moi, j'ai été élevée dans la religion catholique. Et évidemment, ben ça, il y a toujours quelque chose qui reste quand on est. Là. Ensuite, j'ai viré animiste, mais c'est comme ça, peu à peu.
Et c'est sur cet arrangement d'une romance sans parole de Liszt par Amandine Beyer et Yves Rechsteiner que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Amandine Beyer. Réalisation Marie Groux, prise de son Philippe Thibault, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. suite de ce portrait demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.